L'évangile de Marc a certainement été le premier écrit. On pense que Marc a écouté directement les récits de Pierre. Vous remarquez que c'est un écrit qui est très direct, qui se concentre sur l'essentiel, sur les actions, les choses qui sont faites par le Christ. C'est un texte un peu brut, direct. C'est pour ça qu'au chapitre 6, on raconte ce que, par exemple, Matthieu raconte au chapitre 10 et Luc au chapitre 9. Il est un peu pressé, peut-être. Sa devise pourrait être « droit au but ». Je ne sais pas si ça rappelle des choses à d'autres. Il se concentre sur l'action. Et j'avoue ne pas être insensible à ce style très direct qui correspond assez bien à mon tempérament, un peu fonceur, qui aime plutôt l'action. La ligne est claire, limpide, sans artifice. La première chose que l'on voit dans ce texte, c'est l'appel de Jésus. Tout part de cet appel. Et on est dans un changement fort du ministère de Jésus. Jusque-là, Jésus fait un peu tout seul. Il est accompagné, il est suivi, il est entouré, mais c'est lui qui propage le message. Là, pour la première fois, il fait appel à des simples hommes pour l'aider dans sa tâche. Vous remarquez qu'il n'appelle pas des étrangers. Il appelle les 12. Il n'appelle pas au hasard. Il appelle des gens qu'il connaît. Des gens qui sont issus de cette foule qui le suit. Et voici les noms des 12. D'abord Simon, surnommé Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélée et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Jésus appelle donc des disciples et ils vont devenir apôtres, c'est-à-dire envoyés. Ceux qui étaient à l'écoute deviennent envoyés. Ceux qui étaient passifs deviennent actifs, acteurs de la diffusion du message. Jésus les met en mouvement. Ils passent, si j'ose dire, aux travaux pratiques. Aujourd'hui, encore, Jésus appelle. Et à notre échelle d'humain, nous avons certainement quelques exemples de gens qui ont répondu à l'appel de façon plus ou moins visible. J'ai en tête, par exemple, l'exemple de mes parents, qui, alors qu'ils étaient tout jeunes, qu'ils avaient grandi plutôt à la campagne, sont partis, en réponse à un appel, à Bruxelles, faire de l'évangélisation de rue et du travail social. Je peux évidemment pas ne pas penser à mon beau-père, à ma belle famille, David Whisker, qui a quitté son confort matériel, une position sociale avantageuse en Angleterre, pour venir en France et démarrer dans les années 80 le SEL, association bien connue d'aide. Ils sont quand même arrivés à Bordeaux avec 3 enfants, sans savoir ce qu'ils allaient faire, simplement par fidélité à un appel. Plus proche de nous, et je suis content d'avoir Florence parmi nous, nous avons l'exemple récent de Jacques et Florence Peterschmidt, qui sont partis comme pasteurs à plein temps. Là aussi, ils ont abandonné un certain confort pour répondre à l'appel de Jésus. Et quand je lis le rapport d'activité de notre petite association, EEL33, que je vois tout ce qui est fait avec le nombre relativement restreint que nous sommes, je constate aussi le nombre de oui importants à l'appel de Jésus. Je parlerai peut-être un peu de mon cas personnel un peu plus tard. Donc Jésus appelle toujours et appelle les gens de manière différente. Peut-être que l'on peut distinguer deux approches de cet appel, deux approches peut-être un peu schématiques. La première, c'est une conviction qui naît à l'intérieur de nous-mêmes, une conviction intime, une idée forte, une détermination solide, ce que je pourrais appeler un appel interne. Et puis, il peut y avoir un appel qui passe par les autres. Une femme, un homme qui nous parle, des proches, une sœur, un frère, qui va déceler une aptitude à tel ou tel engagement. On pourrait appeler ça l'appel externe. Bon, c'est un peu schématique, je vous le concède. C'est plutôt en fait un ensemble des deux en général qui se passe, peut-être une conviction qui est renforcée par ce que peuvent dire les autres. Donc Jésus appelle. Et les disciples ne seraient pas les disciples, ils ne seraient pas très disciplinés, s'ils ne répondaient pas positivement à cet appel. Et Jésus donc les envoie. Alors bizarrement, on ne sait pas trop où il les envoie. On sait qu'ils partent sur les chemins, mais on ne sait pas trop où. On peut penser qu'ils passent de village en ville, de proche en proche, et qui, comme ça, vont de plus en plus loin de leur point de départ. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils vont à la rencontre des gens. Et Jésus insiste beaucoup là-dessus. Jésus va tout faire pour faciliter cette mission. Rien ne doit nuire cet objectif. Rien ne doit le parasiter. L'idée est vraiment d'aller à la rencontre des autres. Ainsi, l'équipement est réduit au strict nécessaire. Rien de superflu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais rien qui manque non plus. Ils ont quand même le droit de prendre un bâton, des sandales, une tunique. Ils ne partent pas pieds nus. Il y a une certaine recherche d'efficacité. Il n'y a pas l'idée de faire souffrir les apôtres. Ils ne partent pas en pénitence. Ils se déplacent sans charge inutile. Plus qu'un équipement, d'ailleurs, c'est plutôt un déséquipement. Plutôt que de dire « vous devez prendre ça, ça et ça », c'est plutôt « ne prenez pas ça, ne prenez pas ça, ne prenez pas ça ». Alors, sur la marche, il y a cette idée que pour faciliter une marche, il ne faut pas être trop chargé. J'ai l'occasion de partir assez souvent en montagne, pas assez souvent. Et quand on prévoit un sac pour plusieurs jours, pour être en autonomie en montagne, eh bien on se pose plein de questions. Parce que si on se protège beaucoup, avec plein de vêtements chauds, plein de quoi se protéger pour la pluie, si on prend une grosse tente, etc., eh bien on avancera difficilement. Et il y a un compromis à faire entre ce qui va nous aider à avancer et ce qui va être trop lourd et nous empêcher d'avancer. Et je vois évidemment un lien assez évident avec notre marche de vie. Qu'est-ce qui, dans ce qu'on porte, est trop lourd pour nous empêcher de marcher? Ou, au contrario, quel est le bien que l'on possède et qui nous aide? Autrement dit, est-ce que ce que nous avons, nous le possédons, c'est-à-dire il nous sert, ou est-ce que nous sommes possédés par les biens que nous avons acquis? Alors qu'il y a une certaine méfiance, vous l'avez compris, de l'équipement matériel, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture, pas de tunique. Jésus les équipe spirituellement, en leur donnant autorité sur les démons. Vous remarquez aussi qu'ils ne partent pas seuls. Jésus leur demande de partir deux par deux. Quand on lit Matthieu 10, verset 9, il insiste sur l'aspect financier. Il y a cette célèbre phrase « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et Matthieu ajoute « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. En d'autres termes, ne monnayez pas vos services. » On peut imaginer que certains guérisseurs se faisaient payer et amassaient ainsi de petites fortunes. Ici, Jésus interdit le business. Au lieu de continuer à accumuler, il faut redonner. C'est le règne du don. On reçoit, on donne. On sort ainsi des calculs, des quantifications, des accumulations. Et on ne perd pas de vue l'essentiel, qui est de faciliter la rencontre avec l'autre. Il n'est pas recherché, il est même interdit, une relation d'affaires, mais une relation humaine basée sur la confiance, la simplicité, la générosité. J'imagine qu'on a tous connu des gens qui calculaient dans une relation d'amitié. Je ne sais pas si ça va très bien ensemble d'ailleurs. C'est très humain, mais c'est horrible. On compte le nombre de fois qu'on s'est invité. Est-ce qu'il a pensé à mon anniversaire? Est-ce qu'il m'a fait un cadeau? De quel coût? Etc, etc. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais si vous le voulez bien, revenons à la méthode employée par Dieu pour diffuser son message. J'ai du mal à comprendre pourquoi il se complique autant la tâche. Je trouve ça compliqué. Pourquoi Dieu, du haut de sa voûte céleste, n'aurait-il pas directement converti tout le monde, établi son règne de façon autoritaire, sans passer par tous ses intermédiaires? Vous voyez mon côté un peu direct? Voilà. Il peut ressortir assez vite. Ces intermédiaires, il faut les former, il faut les recruter, il faut les former, les équiper, les envoyer. Ils ne sont pas toujours fiables. L'histoire des missions chrétiennes regorge de messages dévoyés, proclamés par des missionnaires corrompus, disons-le, ou simplement qui ont perdu leur route, qui ont oublié l'essentiel, l'essentiel de leur mission, qui ont voulu établir un royaume terrestre. Utiliser des humains, c'est un choix très risqué. Et Dieu a choisi de prendre ce risque. Dieu, lui, a choisi d'incarner son message. D'abord en envoyant son Fils, puis en allant jusqu'à envoyer de simples hommes. Dieu a voulu que le message et le messager se confondent, qu'ils ne fassent qu'un, qu'ils soient intimement liés. Pour que le message soit crédible, il faut que le messager le soit aussi. Que l'ensemble soit cohérent, une cohérence entre le dire et le faire. Je vais dire ce que je vais faire et je fais ce que j'ai dit. Alors le message, ben là aussi, c'est vraiment très court ce qui est dit sur le message porté par les apôtres. On sait plutôt ce qu'ils sont faits, on sait plutôt ce qu'ils font, pardon, mais on ne dit pas trop ce qu'ils disent. Alors on va voir dans Matthieu, et dans Matthieu on en sait un peu plus, on dit qu'ils annoncent que le royaume de Dieu est proche. Dans Luc, ils proclament le règne de Dieu. Ce qu'ils disent, ce qu'ils portent, c'est que le changement est possible et souhaitable, qu'il est possible de changer de priorité. Nous ne sommes pas condamnés à être des rivaux les uns pour les autres. Nous ne sommes pas condamnés à vivre sous le règne de l'argent. Nous ne sommes pas condamnés à vivre seuls, à ne regarder que notre nombril. Nous ne sommes pas condamnés à avoir comme seul but dans la vie d'amasser toujours plus de biens. Jésus est venu humblement, a vécu parmi les pauvres, les rejetés. Alors que le peuple attendait un roi puissant, il est entré dans Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Au lieu de monter sur le trône, il a été cloué sur une croix. Ce message, vous le savez bien, Jésus n'a cessé de le donner. Mais il était inaudible pour ses contemporains, trop fou, trop loin de ce qu'ils pouvaient imaginer. Trop en décalage avec leur connaissance, avec leur certitude. Et même les disciples ont souvent eu du mal à comprendre. Aux apôtres, à sa suite, il demande d'aller à la rencontre, de redonner espoir, de se faire serviteur, de guérir, de libérer des démons, et de le faire en étant dépendant de l'accueil des autres, de leur hospitalité. Les apôtres n'arrivent pas en terrain conquis. Ils sont soumis au bon vouloir de ceux qu'ils rencontrent. Aujourd'hui encore, et peut-être plus qu'hier, ce message a du mal à passer. Quand nous prions le Notre Père, nous demandons que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce royaume que nous appelons de nos vœux n'est pas constitué de palais d'or et d'argent, de magnifiques demeures, de parcs grandioses, dirigés par un roi puissant, triomphant, dominateur. Ce royaume est constitué des personnes qui ont choisi de se soumettre au commandement de Dieu. Nous lisons dans Marc 12 les paroles suivantes au verset 28. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique et l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Très bien, maître, tu as dit vrai. Il est unique. » Il n'y a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que toutes les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant ce qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà un message à vivre et à répandre, n'est-ce pas ? Jésus donne à ses disciples autorité pour chasser les démons, pour convaincre. Alors je me suis posé cette question, peut-être un peu bizarre, mais est-ce que moi-même, dans ma vie, j'ai reçu une parole d'autorité, c'est-à-dire une parole qui a infléchi le plan que je m'étais tracé, qui a changé la route de ma vie. Alors là, je me place du côté de celui qui reçoit, pas de celui qui donne la parole, parce qu'en général, celui qui reçoit sait bien ce que ça a changé dans sa vie, alors que celui qui la donne, parfois, ne sait même pas que cette parole a eu une influence. Alors j'ai cherché, et je vous propose de faire un petit exercice individuel, ne vous inquiétez pas. Essayons de nous souvenir nous-mêmes, d'une parole qui, comme ça, a une influence dans notre vie, de revoir le contexte, peut-être la personne qui a porté cette parole, la teneur de ce message, de cette parole, quand est-ce que c'était, il y a quelques jours, quelques mois, quelques années. Qu'est-ce qui a fait que cette parole nous a rejoints et nous a convaincus ? J'irai plus loin. Qu'est-ce qui fait que cette parole, que peut-être vous avez entendue 100 fois, ce jour-là, a fait mouche ? Alors, puisque le texte de Marc nous raconte le premier envoi des disciples, une sorte d'origine, j'ai moi-même fait un retour aux sources. J'ai un peu creusé pour trouver une parole qui a fait autorité sur ma vie. Je n'ai pas eu à chercher très longtemps, car cette parole ancienne, donnée il y a longtemps, est toujours bien présente dans mon esprit. En fait, elle rejaillit régulièrement, se rappelle à mon souvenir. C'est comme un phare qui éclaire par intermittence. La parole à laquelle je pense, est très directe, on rejoint ce que j'ai déjà dit, courte, simple. Elle m'a été donnée par une femme de pasteur, écrite sur un simple carton. Ce n'est pas un long discours, c'est un appel incisif que Jean fait au chapitre 21 et au verset 22. Une parole que Jésus a donnée à Pierre, un simple toi, suis-moi. Cette parole simple, donnée sans artifice, sans effet de manche, confidentiellement, cette parole a certainement contribué à ce que je sois là ce matin devant vous. Alors pour terminer, le texte de Marc nous rappelle ce matin que Jésus appelle aujourd'hui encore qu'il faut être à l'écoute, être attentif pour entendre. Ce texte nous rappelle aussi la mission apostolique de l'Église. Suite à l'envoi des disciples, les églises se sont créées et ont continué elles-mêmes à répandre la bonne nouvelle. Elles ont elles-mêmes envoyé, créant d'autres églises. Et si nous sommes là aujourd'hui en Église, c'est que nous sommes le fruit du témoignage des générations précédentes. Ce texte nous dit aussi que nous pouvons nous lancer dans cette aventure parce que c'est Jésus lui-même qui nous équipe, qui nous accompagne. Pour faire écho à ce qu'a dit Michel, et en conclusion, je laisserai ce texte de Romains 8, verset 38. Ce qui nous permet de nous lancer, c'est que nous sommes forts de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.